comme les heureux retraités, dès votre entrée dans la vie active, pensez à assurer vos vieux jours chez Suno Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Fatigue, palpitations, nervosité, prise de poids, la conjugaison de certains de ces signes, associés à des changements de volume ou d'aspect des yeux ou de la région du cou, peuvent inciter à suspecter une maladie de la thyroïde. La thyroïde, cette glande donc localisée au niveau du cou, qui n'attire pas vraiment l'attention jusqu'à ce qu'elle se dérègle. Ce dérèglement entraîne la perturbation des hormones qu'elle sécrète. Ces atteintes peuvent prendre de nombreuses formes, impliquer des conséquences diverses, hypothyroïdie, hyperthyroïdie, nodule thyroïdien, cancer de la thyroïde. Dans Priorité Santé aujourd'hui, nous allons parler diagnostic et symptômes de ces troubles et pathologies qui peuvent avoir un impact important en termes de qualité de vie. Nous essaierons aussi de savoir pourquoi les femmes sont plus souvent concernées que les hommes. Nous verrons quelles réponses sont proposées en termes de traitement, de prise en charge. Et bien sûr, dans quel cas l'option chirurgicale s'impose-t-elle? Toutes vos questions au sujet de la thyroïde, on les attend sur la page Facebook de l'émission et à notre numéro 33 84 22 75 75. Maladie de la thyroïde, on l'a bien compris au pluriel. Pour répondre à nos questions avec nous en studio, professeur Philippe Touraine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service d'endocrinologie et médecine de la reproduction à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Tout à l'heure, on va retrouver en ligne du Cameroun le professeur Jean-Claude Mbania, endocrinologue, directeur de l'unité d'endocrinologie et des maladies métaboliques à l'hôpital central de Yaoundé. Le professeur Mbania qui préside aussi la Fédération internationale du diabète. En fin d'émission, on va revenir sur l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest avec la publication d'une étude qui porte sur le suivi des personnes qui avaient survécu au virus au cours de la grande épidémie de 2014-2016. Nous serons en ligne avec Éric Delaporte, qui est l'auteur de cette étude, directeur du laboratoire Trans-VIH-MI, professeur de maladies infectieuses, directeur de l'unité VIH-SIDA maladies associées à l'Institut de recherche pour le développement, l'INSERM, et à l'Université de Montpellier.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Philippe Touraine, on va commencer, si vous le voulez bien, par une petite leçon d'anatomie, c'est classique, avant de parler des troubles, des symptômes et de ces maladies de la thyroïde. D'abord, décrire, localiser la glande, parce que beaucoup de personnes, en fait, ignorent tout simplement où se trouve leur thyroïde, et pourtant, chacun a une glande thyroïde, chacun d'entre nous.
Absolument. La thyroïde, c'est une petite glande qui est située vraiment à la base du cou, juste au-dessus de l'os qu'on appelle le sternum, qui fait un peu la jonction au niveau central devant les deux poumons. Et c'est une petite glande qui se présente d'une façon un peu caricaturale sous forme de deux ailes de papillon reliées par un corps. C'est vraiment un papillon avec donc un lobe qui est à droite et un lobe qui est à gauche. Et c'est important puisque anatomiquement, on cherchera toujours à décrire s'il y a une anomalie qui touche une partie spécifique de cette glande thyroïde. Mais c'est vrai que de base, on ne palpe pas très facilement cette glande thyroïde, à moins qu'elle ne devienne très grosse. Et à ce moment-là, on parlera de goitre éventuellement, ou de présence de nodules, mais on le sentira plus nettement. Mais très souvent, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont une anomalie au niveau de cette glande thyroïde.
Ça veut dire qu'on peut avoir un problème et que ce soit totalement invisible.
Absolument, cela peut être invisible au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de modifications à l'œil nu. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'existe pas des modifications du fonctionnement de cette glande qui peut aller dans le sens d'une hyperproduction hormonale, on parlera d'hyperthyroïdie, ou d'une insuffisance de production hormonale, on parlera d'hypothyroïdie. Mais dans un cas comme dans l'autre, cela peut très bien passer inaperçu à l'œil nu.
Inaperçu, mais pas en termes de symptômes.
Absolument, pas en termes de symptômes. Dès le moment où il y a un dysfonctionnement hormonal, puisque la thyroïde est absolument fondamentale dans son implication d'un ensemble de métabolismes qui sont les nôtres, le métabolisme digestif, le métabolisme cardiaque, le métabolisme d'échange d'eau et de sel par exemple, on a donc si on a un hyper-fonctionnement, une accélération de ces processus, et les gens vont se plaindre très facilement de diarrhée, de palpitations, d'irritabilité, de sueur. Et à l'inverse, si vous avez un fonctionnement qui est insuffisant, les gens peuvent se plaindre de fatigue excessive, de constipation, de frilosité. C'est finalement un peu les deux extrêmes du dysfonctionnement hormonal qu'on a là. Mais il faut aussi reconnaître que dans nombre de situations, les symptômes sont pas aussi évidents, peuvent passer relativement inaperçus, sont peu spécifiques. Beaucoup de gens vont se plaindre de fatigue. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont un problème de thyroïde. Et donc, il faut faire preuve d'une grande rigueur sur le plan de l'interrogatoire de notre patient et de la démarche diagnostique pour arriver à dire si oui ou non il y a une maladie de la thyroïde.
Alors, question qui revient très souvent quand on parle de la thyroïde, c'est une question en termes de genre ou de sexe. Pourquoi les femmes, professeur Philippe Touraine, sont-elles plus concernées que les hommes? Pourquoi elles sont plus souvent malades de la thyroïde?
Oui, c'est une bonne question. Dans la mesure où on n'a pas vraiment cette réponse, il y a certaines maladies comme l'hyperthyroïdie, où ça va jusqu'à 9 femmes pour un homme. Donc, ce sont des cas tout à fait extrêmes. On peut supposer donc qu'il y a certainement une influence des hormones stéroïdes comme les œstrogènes, mais on peut surtout supposer qu'il y a des interfaces entre les hormones stéroïdes et le système immunitaire qui va être impliqué dans certaines maladies de la thyroïde, et quand il se met à dysfonctionner, va engendrer notamment les hyper- ou les hypothyroïdies. Donc c'est probablement plus par l'interface de certaines hormones sexuelles, ou dites sexuelles, et le système immunitaire, qu'on pourrait expliquer cette prévalence excessive de cas chez la femme par rapport à l'homme.
On va pas tout de suite parler traitement molécule, professeur Philippe Touraine, mais est-ce qu'on peut dire que globalement, quand on souffre de la thyroïde, aujourd'hui on a les ressorts thérapeutiques, les traitements adaptés pour trouver des solutions?
Absolument. Et ça, je crois que c'est tout à fait important d'insister sur le fait que face au grand groupe de maladies de la thyroïde, que ce soit l'hyper- ou l'hypothyroïdie, mais aussi les nodules thyroïdiens qui ne s'accompagnent pas nécessairement de dysfonctionnement hormonal, on a des stratégies et diagnostiques et thérapeutiques extrêmement bien codifiées et qui, normalement, ne devraient pas poser de problème pour une prise en charge adéquate du patient qui a une maladie de la thyroïde.
Alors justement, tout à l'heure, vous avez parlé de diagnostic, visée juste. C'est quoi précisément les examens qui permettent de tomber sur la bonne réponse, sur la bonne explication pour un certain nombre de malaises qui peuvent carrément gâcher la vie de tous les jours?
Alors, la première étape, et qui se fait d'ailleurs d'une façon assez courante, c'est le dosage de certaines hormones, et des hormones qui sont fabriquées par la thyroïde, mais surtout par l'hormone qui vient de l'hypophyse et qui contrôle le fonctionnement de la thyroïde, qui s'appelle la TSH, l'hormone qui stimule la thyroïde, puisque si la TSH est à un taux normal, c'est que elle reçoit des signaux normaux de la thyroïde, à savoir qu'il n'y a ni hyper-fonctionnement, ni hypo-fonctionnement. Donc la TSH est un très bon test de débrouillage pour dire, y a-t-il une maladie hormonale de la thyroïde? Si la TSH est anormale, il faut aller plus loin. Si elle est trop basse, ça voudra dire que la thyroïde lui envoie un message en disant, je suis en hyperactivité, je n'ai donc plus besoin de toi pour m'aider à fonctionner. Il faudra faire tout un bilan immunologique, mais aussi une échographie de la thyroïde pour s'assurer de la cause précise de l'hyperthyroïdie. En cas d'hypothyroïdie, c'est-à-dire la thyroïde ne fonctionne pas assez, elle envoie un message à l'hypophyse en lui disant, j'ai besoin d'aide. Donc viens m'aider, stimule-moi. La TSH va augmenter. Et ça, c'est tout à fait important, puisque dans l'esprit de beaucoup de gens, l'hypothyroïdie veut dire une TSH basse. Non, c'est exactement le contraire. La TSH augmente, et là encore, par la suite, on doit faire des recherches de facteurs immunologiques, mais aussi une échographie. On n'a pas besoin d'examens très perfectionnés, j'ai envie de dire, en tout cas pas très coûteux en tant que tel, et dont ils doivent être potentiellement accessibles à la plupart d'entre nous.
TSH à dosage sanguin.
C'est un dosage sanguin qui se fait maintenant d'une façon très courante, et votre médecin généraliste, quand vous allez le voir pour faire un check-up ou parce que vous avez un certain nombre de plaintes pas forcément spécifiques, sera très souvent amené à vous doser cette TSH.
Ça veut dire qu'au départ, c'est le généraliste qu'on consulte, puisqu'au départ, le malade, le patient ne sait pas exactement ce qu'il a, donc il est en recherche d'explications à ses symptômes.
C'est le plus souvent le cas. Ça peut être évidemment directement un endocrinologue s'il y avait déjà un contexte particulier qui pouvait faire évoquer une maladie de la thyroïde, mais le plus souvent, c'est vrai que c'est le généraliste qui fait la première étape.
Est-ce qu'il y a des âges particuliers, professeur Philippe Touraine, des moments de la vie plus propices que d'autres à la survenue, au déclenchement de ces maladies de la thyroïde?
Alors, ça dépend des maladies. Il y a, par exemple, les hyper- ou les hypothyroïdies d'origine auto-immune qui touchent très souvent la femme jeune, je veux dire entre 20 et 30 ans. Parfois, un pic pour d'autres formes d'hypothyroïdie vers la cinquantaine. Et puis, il y a les nodules de la thyroïde, sont des processus qu'on ne maîtrise pas complètement sur le plan de la connaissance, mais qui apparaissent plutôt avec l'âge, plutôt par exemple chez l'homme autour de la cinquantaine, qui doit nous alerter, et qui ne s'accompagnent pas nécessairement d'un dysfonctionnement hormonal, d'hyper ou d'hypothyroïdie, et qui sont extrêmement fréquents. On peut supposer que 15% de la population française est porteuse de nodules de la thyroïde qui ne vont pas nécessairement s'exprimer.
Alors, ce qui peut inquiéter les gens quand on parle des maladies de la thyroïde, professeur Touraine, c'est que très souvent, on a l'image de maladie à vie. Est-ce que c'est vrai?
C'est pas tout à fait exact. Alors, tout dépend là encore des maladies. Les maladies de l'hyperthyroïdie, notamment les causes auto-immunes, si vous les traitez correctement, vous avez en gros une chance sur deux de guérir votre patient ou votre patiente, on va dire le plus souvent, pour le restant de sa vie. Donc c'est une maladie qui aura marqué un temps de 1 à 2 ans, avec un côté très délabrant, très fatigant de la maladie, mais qui sera sur un temps donné. Les hypothyroïdies avec une destruction de la thyroïde, eh bien c'est une maladie qui est ad vitam aeternam, en ce sens que s'il y a une destruction complète de la glande thyroïde, il n'y a pas de récupération, et donc on peut supposer que c'est une maladie sur du long cours.
Et il y a un facteur d'âge, hein, les maladies sont plus fréquentes quand on avance en âge.
Certaines maladies, comme les nodules, mais je répète, les maladies de dysfonctionnement hormonal hyper ou hypothyroïdie, notamment dans des contextes immunologiques, c'est très souvent chez la femme plutôt jeune, et entre 25 et 30 ans.
Et pour rassurer, comment distinguer, comment faire la part des choses entre nodules et tumeurs, hein, souvent dès qu'on imagine quelque chose d'extérieur au corps, on a un petit peu peur que ça aille vers un cancer.
Alors, c'est un élément tout à fait important. D'abord, le nodule, c'est dans la thyroïde. C'est pas accolé à la thyroïde, c'est dans la thyroïde, c'est une excroissance dans la thyroïde. Et toute la question est évidemment pour nous, médecins, de savoir si ce nodule a un risque de présenter des cellules dites cancéreuses. Parce que même si ce sont des cancers de bon pronostic, il faut en faire le diagnostic. Il y a des stratégies très précises et très rigoureuses qui, en fonction de la taille et de tout un ensemble de caractères du nodule, doivent nous dire, il faut aller faire une ponction de ce nodule, c'est un examen avec une petite aiguille, pour regarder à quoi ressemblent les cellules. Et évidemment, s'il y a un doute, on envisagera un geste chirurgical. Mais dans la très grande majorité des cas, ça je crois que c'est important à souligner, ce sont des nodules totalement bénins qu'on pourra même simplement surveiller. Je veux dire par là qu'il n'y aura pas d'indication opératoire, loin de là, devant tout nodule de la thyroïde, il ne faut surtout pas tomber dans l'excès de la pratique chirurgicale face à un patient qui a un nodule de la thyroïde.
Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que par le passé, on opérait à tour de bras, professeur Touraine? Est-ce que quand il y avait nodule, il y avait geste chirurgical beaucoup plus fréquemment qu'aujourd'hui en tout cas?
Oui, absolument. Il y avait beaucoup de gens qui préconisaient le geste chirurgical en disant possiblement ça va grossir et plus ça grossit, plus ça va être compliqué, par précaution. Et puis, on n'est jamais sûr de ce qu'on va y trouver. La cytoponction n'est pas 100% sûre par rapport à un diagnostic, y a-t-il des cellules cancéreuses ou pas. Mais enfin, c'est un examen qui, lu par des praticiens qui sont expérimentés et chevronnés, permettent vraiment très souvent de nous dire j'ai un doute ou je n'ai pas de doute. Et donc je pense qu'il y a tout un ensemble de recommandations aujourd'hui qui sont fondamentales à suivre pour éviter des gestes chirurgicaux qui ne sont pas toujours à 100% dénués d'effets secondaires.
Alors l'autre côté de cette question, professeur Philippe Touraine, c'est quand le geste chirurgical est-il absolument indispensable?
Alors le geste chirurgical, il va être indispensable dans un premier temps si vous avez sur un nodule de la thyroïde par exemple un doute à cette cytoponction. C'est évident que s'il y a un doute sur la présence de cellules cancéreuses ou que la lecture n'est pas tout à fait convaincante, je pense que c'est un principe de précaution et ça il faut y aller pour parler simplement. Ça c'est le premier élément. Ensuite, il y a des situations où les nodules sont extrêmement gros et deviennent donc gênants sur le plan mécanique quand ils font plusieurs centimètres de diamètre.
Ils ne peuvent pas se résorber.
Alors, spontanément, ils ne vont pas se résorber. Maintenant, il y a de nouvelles techniques progressivement accessibles en France en tout cas. Ce sont des techniques de ce qu'on appelle de thermoablation qui cherchent à détruire, à faire fondre, en quelque sorte, par laser ou par ultrason, ces nodules. C'est réservé à des situations pour l'instant particulières, mais c'est certainement une nouvelle optique de prise en charge des nodules de la thyroïde pour l'avenir, indéniablement. Et puis, il y a des situations où on ne contrôle pas la maladie de la thyroïde, notamment l'hyperthyroïdie dans des cas extrêmes avec des très gros goitres, où on peut être amené à dire à la patiente, écoutez, on va vous opérer, parce que c'est la seule solution que l'on a à notre disposition aujourd'hui pour traiter votre problème thyroïdien. Et parfois, ce sont des décisions qui peuvent être orientées par des phénomènes de la vie. Une femme qui veut être enceinte, par exemple, on peut se dire, est-ce que ce ne serait pas la meilleure stratégie à adopter en vue d'une grossesse d'envisager un geste chirurgical?
On va tout de suite donner la parole aux auditeurs. Juste une petite question. Ce goitre, il est réversible lui aussi? Toujours cette même question.
Alors, le goitre, il peut être isolé sans dysfonctionnement hormonal ou accompagné d'un dysfonctionnement hormonal. Si vous avez un dysfonctionnement hormonal et que vous le traitez, vous pouvez voir une thyroïde réduire en termes de taille. Mais si ce sont des goitres plus physiologiques dans des pays particuliers par des carences en iode par exemple, on est plutôt sur des processus plus sur du long terme.
Professeur Touraine, tout de suite, la parole aux auditeurs.
Priorité santé sur RFI.
Et le premier de ces auditeurs nous appelle du Mali, de Bamako. C'est Abdourahmane. Abdourahmane, bonjour.
Bonjour, madame Caroline.
On vous écoute, Abdourahmane. Le professeur Touraine est à votre écoute.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur le professeur. Donc, en fait, j'ai une grande cerque depuis 2011. Donc, après avoir détecté le goitre, donc, elle a suivi une intervention et l'intervention a mal tourné. Du coup, maintenant, elle suit un traitement à vie avec la levothyrox. Et chaque fois, c'est des vertiges et celle-ci, elle oublie même de prendre le médicament dans la journée. Elle peut survenir, donc vraiment, ce médicament le fatigue trop. Donc, je ne sais pas si quand même ma question est de savoir si dit au dosage des médicaments, les vertiges, ou ils sont naturellement comme ça.
J'ai une question à vous poser, Abdourahmane. Vous dites que l'opération a échoué. Pourquoi, d'après vous, elle a échoué? Est-ce que c'est quelque chose que vous a dit un médecin, ou c'est quelque chose que vous jugez par vous-même ou que votre sœur ressent?
Après la détection du goitre, le chirurgien qui a fait l'intervention, en fait, a trop enlevé. Du coup, les hormones ne peuvent plus se produire, les hormones thyroïdiennes. Donc, par la suite, après l'intervention, ils ont encore constaté que les cordes vocales ont été fermées. Parce qu'à la suite de l'intervention, on prend les cordes vocales avec des pinces. Et c'est après, quand même, d'avoir fait la suture, qu'ils ont constaté qu'elles n'arrivent pas à respirer normalement. Donc, il a fallu voir un interniste pour qu'elle constate que, voilà, c'est les cordes vocales qui ont été fermées. Donc, il a fallu encore une deuxième intervention pour ouvrir encore les cordes vocales parce qu'elle a des problèmes respiratoires, elle n'arrive pas à respirer normalement.
Donc, elle a eu des séquelles de cette opération. Professeur Philippe Touraine, c'est quelque chose qui peut intervenir, justement, ce genre de problème, après une opération de la thyroïde?
Oui, alors, là, pour répondre aux différentes questions de monsieur Abdourahmane, il y a plusieurs problèmes différents. Mm-hmm. D'abord, si j'ai bien compris, effectivement, on a enlevé toute la thyroïde, donc, à votre sœur. Dès le moment où on enlève toute la thyroïde, puisque vous avez évoqué le fait qu'on avait enlevé trop de glandes, si on a enlevé toute la thyroïde, elle n'a plus de glande thyroïdienne, donc elle dépend maintenant à vie d'un traitement hormonal qui sera donc le levothyrox. Et il est fondamental que si votre sœur se plaint d'un certain nombre de symptômes, j'entends les vertiges, etc., il est impératif qu'elle voie avec un endocrinologue à Bamako, il y a une très bonne équipe à l'hôpital du Mali, à Bamako, qui puisse voir avec votre sœur si l'équilibre hormonal est correct, à savoir, est-ce que la dose de levothyrox est la bonne dose pour votre sœur? Ça, je ne peux pas y répondre aujourd'hui, mais je pense que mes collègues pourront le faire parfaitement bien.
Ça se vérifie avec une prise de sang?
Tout simple, là encore, le dosage de la TSH chez votre sœur pourrait très bien nous dire si elle est bien équilibrée, en sachant, et ça j'insiste moi énormément auprès de mes patients, sur le fait que la normalité de la TSH, on vous donne un résultat en vous disant c'est normal entre 1 et 5 par exemple. Si vous êtes à 1,5, eh bien c'est un chiffre normal entre 1 et 5. Mais il y a des gens qui se sentent plus ou moins bien dans cette norme, et donc il faut toujours avoir l'esprit un peu ouvert en tant que médecin et se dire, est-ce que même si c'est dans la norme, est-ce qu'on est sur la bonne dose? Ça c'est le premier point. Le deuxième élément que vous avez évoqué, monsieur, c'est le problème de ces cordes vocales. C'est malheureusement parfois un effet secondaire de la chirurgie. Je ne sais pas si elle a été compliquée, cette chirurgie, avec la paralysie du nerf qui commande les cordes vocales. Et donc, il y a des problèmes de voix. Et il faut le plus souvent essayer d'avoir accès à des orthophonistes
pour faire une forme de rééducation
de la voix, plutôt que de faire des réinterventions successives.
Le professeur Touraine, ce qu'évoquait aussi Abdourahmane, c'est quand sa sœur oublie son traitement. Donc là, c'est problématique.
Alors, évidemment, il ne faut pas oublier un traitement par levothyrox. Je ne devrais pas le dire aussi directement. C'est-à-dire que si vous oubliez un jour, vous ne devriez pas entraîner une perturbation majeure parce que le médicament reste très longtemps dans le sang. C'est-à-dire, il s'élimine en 4 à 6 semaines. Donc, un oubli d'un jour ne devrait pas poser tous les problèmes que vous avez soulevés. Pour autant, ce n'est pas, c'est pas l'objectif. Par contre, ce qui est important, c'est de prendre le lévothyrox dans des bonnes conditions. On dit classiquement qu'il vaut mieux le prendre le matin, à jeun, avant la prise de tout aliment, pour éviter toute interférence d'absorption du médicament. Et notamment, si votre sœur n'est pas bien équilibrée, le médecin qui va la prendre en charge à Bamako devra voir avec elle s'il n'y a pas de prise d'autres médicaments qui peuvent interférer avec l'absorption dans l'estomac du lévothyrox.
Donc, Abdourahmane, pour synthétiser tout ce que vient de dire le professeur Philippe Touraine, oui, votre sœur doit prendre ce médicament à vie.
Absolument.
Et peut-être retourner voir un médecin pour voir si le dosage est tout à fait correct pour éviter des vertiges.
Absolument.
Voilà, Abdourahmane, est-ce que ces réponses vous ont satisfait?
Oui, très bien. Mais en fait, ma deuxième question est de savoir est-ce qu'un jour elle pourra arrêter ses traitements.
Ben, c'était non, justement.
Je pense que non, voilà. Monsieur. Dès le moment où vous n'avez plus de thyroïde, s'il n'y a plus de thyroïde, vous manquez d'hormones thyroïdiennes, donc on se substitue à sa thyroïde. Si maintenant, en réalité, le geste chirurgical montre qu'il a resté un peu de thyroïde qui peut parfois repousser, ça se voit par l'échographie de la thyroïde, on peut revérifier en baissant les doses de lévothyrox si elle est capable de redémarrer un fonctionnement hormonal. Mais si vous m'avez dit qu'on avait enlevé trop de thyroïde, c'est-à-dire toute la thyroïde, je pense a priori qu'elle devrait plutôt avoir besoin à vie d'hormones thyroïdiennes.
Voilà, Abdourahmane. Très bonne journée à vous à Bamako, au Mali. On va partir pour le Gabon, pour Libreville, où l'on retrouve en ligne Georges. Bonjour, Georges.
Bonjour, Caroline.
On vous écoute, Georges.
Bonjour, monsieur.
Ok, bonjour, professeur, et bonjour à tous les auditeurs de RFI. Alors, j'ai une question à deux volets.
Mm-hmm.
Alors, parlant de l'hyperthyroïdie, y a-t-il un lien avec le goitre? Et la deuxième question, comment prévenir l'hyperthyroïdie?
Alors, goitre et hyperthyroïdie, on y a en partie répondu, mais on va le redire parce que c'est important.
Oui, c'est important. C'est-à-dire, le goitre, c'est une augmentation de la taille de la thyroïde. Ça, c'est un peu la définition globale. Cette thyroïde peut être homogène en étant augmentée de volume. On appellera ça un goitre homogène. Ou un goitre qui contient plein de nodules d'une taille plus ou moins variable. On parlera de goitre hétéronodulaire. Un goitre peut ou non s'accompagner d'un dysfonctionnement hormonal. S'il y a une hyperthyroïdie avec un goitre, c'est ce qu'on observe le plus souvent dans les maladies auto-immunes, notamment chez la femme jeune, la fameuse maladie de basse d'eau, on va se retrouver souvent avec une thyroïde qui est stimulée, donc qui augmente en termes de taille, puisque finalement, l'hyperthyroïdie entraîne un hyperfonctionnement de cette glande qui grossit. Mais on peut parfaitement observer des cas qui ont des grosses thyroïdes, donc des goitres, et dont le fonctionnement hormonal en tant que tel est tout à fait dans les limites de la normale. Donc là encore, face à un goitre, il faut le caractériser, faire une bonne échographie de la thyroïde pour voir s'il est homogène ou non, et de faire un dosage sanguin, là encore, pour voir s'il existe une maladie de la thyroïde ou pas.
Voilà, Georges, votre deuxième question portait sur d'éventuels moyens de prévention des maladies de la thyroïde. Est-ce qu'il y a des conseils?
Alors, les premiers conseils qu'on pourrait donner au niveau mondial, ce serait d'avoir une alimentation toujours avec riche en iodes. Et vous savez, les supplémentations en iodes se font d'une façon extrêmement hétérogène suivant les pays, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Ça, c'est le premier point.
En France, par exemple, dans le sel, on voit sel iodé.
Oui, mais c'est souvent sous-dosé en France par rapport à des pays comme les États-Unis. On est plutôt en France dans des bassins de population avec une tendance de sous-dosage en iode plutôt que du surdosage. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, si on est face à une maladie auto-immune, d'un dysfonctionnement hormonal comme la maladie de basse d'eau ou les hypothyroïdies d'Hashimoto, on n'a pas de facteur de prévention. Et les gens sont souvent très inquiets puisqu'on leur explique qu'en cas d'hyperthyroïdie, le phénomène de stress peut influencer. C'est vrai que des grands stress peuvent déclencher certaines maladies auto-immunes et donc de la thyroïde. Pour autant, on peut pas s'empêcher de vivre. Et donc, c'est très difficile de faire une vraie prévention là-dessus. Et sur les nodules, malheureusement, on n'est pas sur des politiques de prévention complètement évidentes, tant la prévalence des nodules est très importante en France.
Notamment. Voilà, Georges, pour ces réponses, on va prendre un dernier auditeur. Cet auditeur, c'est Aubin, qui est au Congo, à Brazzaville. Bonjour, Aubin.
Bonjour, professeur.
Bonjour.
On vous écoute, Aubin.
Merci. Moi, j'ai un problème d'état parathyroïdie. Au début, j'avais des sérieux problèmes au niveau de mon ventre. Je croyais au départ que c'était de l'estomac. Mais après avoir passé les scanners au niveau de l'abdomen, on m'a dit que c'était le problème de pancréatite chronique. pancréatite chronique aiguë. Après 6 mois de cela, je suis tombé dans le cas de glycémie, mon taux de glycémie était vraiment élevé, à 6 grammes par litre. Et après cela, le médecin m'a dit que si j'ai un problème de glycémie, là, donc il doit avoir un antécédent après ça. Donc il fallait faire certains examens. Et principalement, on m'a demandé de contrôler le dosage du PTH. Mon dosage du PTH était vraiment élevé, 4 fois plus à la valeur normale, 278. Et on m'a dit que non, comme c'est comme ça, là, il faut qu'on me fasse l'opération au niveau de la cou. Et l'opération a été déjà effectuée. Quand on l'a effectuée, on a fait également le contrôle du PTH. Le PTH était revenu comme à la normale. Ce n'était pas à la norme comme c'était prévu, mais c'était à 85, parce que la norme, c'est 15 à 65. Et après cela, moi, j'ai trouvé que jusqu'alors, j'ai pas tellement de changement au niveau de glycémie, parce que mon glycémie n'est pas toujours stable. Et on m'a mis également sur un régime d'injection d'insuline à vie. Bon, ma question est la suivante. Puisqu'on m'avait dit que non, dès que on va m'opérer, la situation va rentrer en ordre. Mais jusqu'alors, je ne comprends pas. Le glycémie ne se change pas toujours. Alors, est-ce que avec la prise des insulines chaque fois, ça ne va pas avoir de répercussions sur mon organisme dans l'avenir? C'est un peu mon problème.
Professeur Touraine, moi j'écoute tout ça, j'ai déjà plusieurs questions à vous poser. Déjà, nous expliquer ce que c'est le PTH et si Aubin ne souffre pas conjointement d'un problème thyroïdien et de diabète.
Alors absolument. Alors en réalité, ce n'est pas un problème thyroïdien puisque le PTH, c'est l'hormone parathyroïdienne. Et comme son nom l'indique, parathyroïdienne, on a tous 4 petites glandes de chaque côté en haut et en bas de notre thyroïde, donc aussi à la base du cou, et qui fabrique cette hormone parathyroïdienne, la PTH, qui va agir notamment sur tout ce qui est métabolisme de l'os, sur notre construction, sur notre remodelage osseux. Et quand notre PTH est trop augmenté, eh bien on va favoriser la déminéralisation de l'os et la libération de calcium notamment. Et ce calcium peut monter à des taux faramineux très importants dans le sang, ce qui peut être un vrai problème pour le patient en situation aiguë, ou s'éliminer dans les urines et faire des calculs dans les reins. Donc là, on a identifié chez vous, monsieur, un problème d'hyperparathyroïdie. Comme je ne connais pas toute votre histoire, je ne sais pas s'il y avait un taux de calcium qui était trop élevé. En France, par exemple, très souvent, les hyperparathyroïdies sont observées parce qu'on manque de vitamine D. Donc le manque de vitamine D, c'est le manque de soleil, manque d'exposition au soleil. Notre taux de PTH augmente presque physiologiquement. Donc il faut simplement le corriger dans un premier temps en donnant de la vitamine D. Quand on a des taux aussi élevés que le vôtre, c'est probablement qu'il y avait peut-être une petite tumeur bénigne au niveau de ces glandes parathyroïdes. On vous a opéré, vous nous dites. Donc je suppose que c'est en vous opérant de ces parathyroïdes qu'on vous a guéri de ce côté-là. Et parallèlement, comme on vient de vous le dire tout à fait d'une façon pertinente, vous avez ce problème de pancréas. Vous savez que le pancréas, c'est là où se fabrique notamment l'insuline et que vous avez un désordre au niveau du métabolisme du sucre avec donc un diabète, monsieur. Un diabète puisque votre taux de sucre est beaucoup trop élevé. Et ce n'est pas parce que vous allez corriger le problème des parathyroïdes que vous allez corriger le problème du sucre. Ce sont deux problèmes potentiellement différents, celui des parathyroïdes et celui du sucre, avec le problème de votre équilibration hormonale, avec une insulinothérapie ou un traitement médicament par la bouche.
Voilà, Aubin, eh bien, on vous souhaite une très bonne journée au Congo, à Brazzaville. On va poursuivre avec vous cet échange. Professeur Philippe Touraine, chef du service d'endocrinologie, médecine de la reproduction à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. On a parlé tout à l'heure d'ajustement de traitement. Ça veut dire qu'il faut un suivi des patients qui ont un problème de thyroïde. Un suivi à quelle fréquence, professeur?
Alors, c'est absolument fondamental. Ça, c'est un élément fondamental, puisque très souvent, on se dit au fond, oui, c'est des problèmes qui sont relativement simples. On va donner un peu de traitement, après, vous pouvez continuer à vous faire suivre comme ci ou comme ça. Je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient impliqués sur la prise en charge de ces patients qui ont des problèmes de thyroïde. Alors, tout dépend, pour répondre à votre question sur le suivi, la fréquence notamment, tout va dépendre de la maladie. Si vous êtes sur une équilibration hormonale qui s'est déjà mise en place, et il faut simplement un suivi sur du long terme, un dosage 1 à 2 fois par an, une consultation annuelle peut parfois parfaitement suffire auprès d'un endocrinologue notamment. Si maintenant vous êtes en phase aiguë d'une hyperthyroïdie, où il y a un hyper fonctionnement de votre glande thyroïde, des taux hormonaux qui sont excessivement élevés, le patient ne va pas bien, on peut être amené à lui proposer même un arrêt de travail dans des cas très particuliers parce qu'il faut vraiment qu'il y ait du repos. Il faut voir le patient probablement tous les mois au début à des dosages hormonaux pour ajuster le traitement qui va freiner cette hyperactivité de la thyroïde. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes situations. Et si vous êtes enfin devant une situation d'un nodule de la thyroïde qu'il faut surveiller, une échographie annuelle le plus souvent va largement suffire.
Alors impossible hein, d'évoquer ces maladies de la thyroïde sans revenir sur la fameuse affaire en France hein, du lévothyrox, thème majeur de l'actualité sanitaire de ces dernières années. Professeur Philippe Touraine, on vous a même invité dans Priorité Santé pour en parler. Alors, on en a beaucoup parlé ces deux dernières années, simplement parce que c'est l'un des produits les plus prescrits en France, donc ça concerne énormément de monde. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette crise du lévothyrox est terminée ou que c'est toujours en cours ?
Alors, elle est calmée par rapport à la phase aiguë, quels qu'en soient les mécanismes. Je ne peux pas dire qu'elle soit terminée, dans la mesure où il y aura toujours des gens qui probablement n'auront pas trouvé réponse à leurs questions, ce qui quand même soulève beaucoup de questions pour nous tous dans la communauté médicale. Mais au-delà de ça, c'est clair qu'il y a une volonté de retirer progressivement du marché l'ancienne formule du lévothyrote pour que la nouvelle soit la seule et unique. Il est vrai qu'on a de moins en moins de plaintes de patients qui utilisent une nouvelle molécule. Il y a aussi des nouvelles formulations. Je crois que on a retenu comme leçon le fait que là, il y avait eu un défaut de communication indéniablement, qu'il faut certainement vérifier l'équilibre hormonal sous ces différentes molécules que sont les hormones thyroïdiennes. Mais je pense que en soi, on devrait quand même aller vers un climat un peu plus apaisé dans l'avenir.
Professeur Philippe Touraine, est-ce que le climat de confiance, justement, parce que cette confiance avait été largement entamée entre une partie des soignants et des patients, est-ce qu'aujourd'hui ce climat de confiance est retrouvé ?
Je ne dirais pas qu'on pourra forcément parler d'un après ou d'un avant lévothyrox, mais je pense que l'affaire du lévothyrox, c'est très symptomatique d'un climat général qui est plutôt de défiance ou de méfiance. Alors évidemment vis-à-vis des autorités de tutelle, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette image de l'autorité de santé qui nous cache des choses, qui est en partenariat avec l'industrie pharmaceutique, qui nous cache des choses. On parle beaucoup de théorie du complot, etc. Je pense que dans ce domaine médical, il y a aussi une exacerbation de certaines craintes qui se retrouvent à ce niveau-là. Il y a la crainte de l'individu face au produit qu'il absorbe. Beaucoup de patients viennent me voir en disant « je ne veux pas de traitement médicamenteux. Je vais me débrouiller tout seul ou toute seule. Est-ce qu'il y a un moyen ?» Alors, il y a des moments où on peut se dire « pourquoi pas hein ?» On peut maintenir des gens en très léger dysfonctionnement hormonal sans prendre de traitement si les gens le tolèrent bien. Pourquoi pas ? Mais pour autant, je pense qu'il y a un climat qui reste, que je définirais volontiers de mauvais, à savoir vis-à-vis de l'hormone, les hormones en général. Les femmes ne veulent plus de contraception hormonale. Ça leur fait peur. Est-ce que finalement, on perturbe mon organisme ? Est-ce que j'induis des maladies ? Est-ce que demain, j'ai plus de chances d'avoir un cancer, par exemple ? Donc, il y a énormément de craintes à ce niveau-là. On le voit bien à travers les vaccins, aussi les craintes, les doutes, les interrogations. Donc, je pense que l'affaire du lévothyrox n'aura fait que exacerber cette méfiance et cette défiance qui ne sont pas revenus au point mort, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui.
Professeur Philippe Touraine, on va partir tout de suite pour le Cameroun.
RFI.
Avec en ligne le professeur Jean-Claude Bagnat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes endocrinologue, directeur de l'unité d'endocrinologie des maladies métaboliques à l'hôpital central de Yaoundé. On a parlé tout à l'heure des diverses causes des maladies de la thyroïde, différentes manifestations et symptômes. Est-ce qu'il y a, pour le cas du Cameroun précisément et de cette région de l'Afrique centrale, professeur Bagnat, des facteurs également conjugués de malnutrition ?
Oui, exactement. Ce n'est pas seulement le facteur de malnutrition. Il y a aussi ce qu'on appelle des guatines, des substances dans l'aliment, qui causent aussi des guatines, par exemple le manioc, le chou, le soya, le millet. Donc, tous ces choses au niveau de malnutrition ou aussi l'apport en vitamine A. Donc, il y a ça qui cause des guatines. Donc, dans notre région, il y a des zones endémiques.
Professeur Mbania, je suis contrainte de vous interrompre. On va essayer tout de suite de vous rappeler hein, pour poursuivre cet échange, parce que forcément, c'est intéressant de comprendre les implications entre les modes d'alimentation, y compris certains aliments usuels hein, dans cette région de l'Afrique de l'Ouest, avec ce que ça peut impliquer au niveau des réactions physiologiques. On essaye de vous rappeler. Est-ce que vous, par exemple, professeur Touraine, certaines de vos patientes, vous leur donnez des conseils alimentaires lorsqu'ils souffrent de pathologie de la thyroïde ou ce n'est pas nécessaire?
Non, je crois que c'est pas nécessaire. C'est important de le rappeler parce que les gens sont très souvent préoccupés. Est-ce que je mange trop de ci ou pas assez de ça? Je leur dis d'une façon toujours très libre. Écoutez, allez vous exposer à l'air de, au grand air de l'océan. Et si vous voulez manger des crustacés, ou des plats riches en iode, vous pouvez le faire. Non, je crois qu'il faut être justement très ouvert. Quelqu'un qui est en hypothyroïdie ou en hyperthyroïdie en France ne l'est pas du fait de gros problèmes alimentaires et peut tout à fait avoir une alimentation diversifiée comme il le souhaite.
Est-ce que vous diriez aussi que certaines patientes, en particulier de la thyroïde, souffrent de ne pas être prises au sérieux dans leur ressenti de la maladie?
Absolument, et ça je crois que c'est fondamental de le dire.
Je vais vous dire, pour caricaturer, d'être prises en gros pour des hystériques.
Alors, je vous laisse le soin de ces paroles.
Non, mais je pense que c'est aussi un ressenti qui peut exister.
Et à travers l'affaire du lévothyroïde, ça a été encore plus exacerbé. Il y a beaucoup de gens qui ont des plaintes multiples et variées et chez qui on diagnostique classiquement, on va dire, une discrète hypothyroïdie, à savoir ce qu'on appelle les hypothyroïdies frustes. La thyroïde est un peu paresseuse, la TSH est un peu augmentée, mais rien de très problématique. Et pour autant, il y a beaucoup de plaintes. Et là, je pense que ça, c'est extrêmement important qu'on soit à l'écoute de ses patients.
Parce qu'on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la confiance. Quand on arrive et qu'on est mal et qu'en gros, le médecin vous dit... je regarde les papiers,
rentrez chez vous,
vous allez très bien. Non, je ne vais pas très bien.
Je pense que c'est une erreur. Ça, je le dis très sincèrement, je pense que c'est une erreur. Quitte, pour autant, à ce qu'après un entretien, quand même, longuement mené avec ses patientes, on se dise, y a-t-il opportunité d'avoir une démarche simplement de suivi, de vérification de dosage hormonaux ou de traitement? Moi, ce qui me frappe, c'est que on a les deux extrêmes. Soit c'est vous êtes hystérique, puisque vous reprenez ce terme-là, rentrez chez vous, madame, au revoir. Ou deux, vous avez une TSH qui est à 5 pour une normale à 4,5, la norme supérieure, donc vous êtes en hypothyroïdie, donc je vous donne du lévothyrox. Et je vois des patientes qui me disent, ça fait 15 ans que je prends du lévothyrox. Et je me dis, mais est-ce qu'elles le prennent parce qu'elles en ont vraiment besoin ou pas? Et dès lors qu'on rentre dans un processus de réflexion avec les patients, on discute par exemple le sevrage, l'arrêt du traitement, et très souvent les patientes reviennent en me disant « je suis très en forme, j'ai pas de problème d'hormone thyroïdienne ».
C'est pour ça que tout à l'heure vous avez insisté sur ce suivi, sur l'ajustement. Absolument. C'est se voir régulièrement pour que ça corresponde vraiment au ressenti du moment.
On ne traite pas des gens qui n'ont pas besoin d'être traités. Moi, c'est un principe général dans la vie, sur le plan médical. Si vous avez une maladie de fabrication excessive d'hormones thyroïdiennes, il va falloir la contrecarrer, il va falloir la traiter, en tout cas transitoirement. Si vous avez une hypothyroïdie très franche, où il y a une insuffisance tout à fait évidente de production d'hormones thyroïdiennes, il faut substituer, il faut traiter. Mais si on est dans un tableau extrêmement borderline, il faut savoir prendre le temps, suivre et discuter avec la patiente.
On regrette de ne pas pouvoir poursuivre notre échange avec le professeur Jean-Claude Bagna. Impossible d'avoir une ligne correcte avec Yaoundé. Bien évidemment, cette problématique des maladies de la thyroïde en Afrique centrale, on va y revenir prochainement dans Priorité Santé. On ne manquera pas de joindre Yaoundé à cette occasion. J'aimerais qu'on aborde la dernière partie de notre échange, professeur Philippe Touraine. Quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est le cas particulier, ou à peine esquissé, grossesse et maladie de la thyroïde. Il y a des femmes qui connaissent des dérèglements thyroïdiens précisément pendant la grossesse, rien avant, rien après. Pourquoi ?
Alors, ça c'est un élément extrêmement important. Au cours de la grossesse, il y a donc des modifications hormonales, notamment sur le plan des œstrogènes. Il y a une adaptation de la thyroïde qui se fait d'une façon physiologique. Donc on a des modifications hormonales à minima pendant une grossesse, notamment une diminution de la TSH au cours du premier trimestre de la grossesse. Ce sont des processus physiologiques, on n'est pas dans de la maladie. Ça c'est le premier point. Le deuxième élément, c'est qu'on a parfois, après l'accouchement, ce qu'on appelle des inflammations de la thyroïde, la thyroïdite du postpartum, qui peut s'accompagner d'une hyperthyroïdie, voire d'une hypothyroïdie. Et il faut avoir présent à l'esprit cette possibilité-là, notamment chez les femmes qui, après un accouchement, sont fatiguées, se plaignent d'un certain nombre de symptômes. Et donc, il faut savoir y penser. Et puis, il y a les femmes qui ont des maladies de la thyroïde avant la grossesse et chez qui il va falloir avoir un suivi très régulier pendant la grossesse, dans la mesure où il peut y avoir une adaptation des traitements. Notamment lorsque vous êtes en hypothyroïdie avant une grossesse, les besoins augmentent en hormones thyroïdiennes sous l'effet des œstrogènes pendant la grossesse. Il faut augmenter les doses de votre lévothyrox, évidemment en concertation avec un médecin traitant ou un endocrinologue. Et si à l'inverse vous êtes en hyperthyroïdie, on doit peser le pour et le contre de la grossesse, à savoir qu'on n'aime pas trop donner des traitements contre l'hyperthyroïdie chez une femme enceinte, notamment par rapport au bébé, par rapport au fœtus. Donc, on essaie d'être précautionneux. Donc, on le fera si vraiment on n'a pas d'autre solution, mais on le fera avec parcimonie et on discutera plutôt de l'opportunité de donner la possibilité d'une grossesse à une femme en fonction de son équilibre hormonal.
Alors, on n'a pas beaucoup parlé du cancer de la thyroïde. Est-ce qu'on a parlé tout à l'heure de la suspicion? Ça veut dire, s'il y a cette suspicion, il y a ablation de la thyroïde, la totale ou partielle?
Alors, si vous avez une vraie suspicion, c'est-à-dire que la cytologie vous dit il y a des cellules cancéreuses, le chirurgien va être aidé par ce résultat de la cytoponction pour proposer un geste a priori complet, c'est-à-dire une thyroïdectomie totale, et surtout même d'aller vérifier ce qui se passe au niveau des ganglions, ce qu'on appelle les chaînes ganglionnaires, pour aller vérifier qu'il n'y ait pas de diffusion déjà de cellules cancéreuses dans ces ganglions. Donc cette cytoponction est fondamentale pour aider le chirurgien. Si ensuite on opère un patient et qu'on se rend compte que pendant l'intervention on découvre 2-3 cellules cancéreuses, c'est là où on peut se poser la question de est-ce qu'il faut vraiment faire une totalisation ou est-ce qu'on fait simplement on enlève un des deux lobes de la thyroïde. Et surtout c'est en fonction du diagnostic définitif donné par les anatomopathologistes, l'histologie, qu'on va décider d'un traitement complémentaire, notamment un traitement par de l'iode radioactif pour détruire les éventuels résidus thyroïdiens qui resteraient après une intervention chirurgicale.
Ça veut dire que c'est pas forcément associé aux autres traitements qu'on a pour les cancers classiques, pas de chimio,
du
pas
tout.
De radiothérapie,
pas c'est de pas chimio. Pas de radiothérapie dans les formes les plus classiques. Il y a toujours des formes beaucoup plus graves avec métastases qui imposent certaines formes de chimiothérapie, etc. Mais pas de radiothérapie, pas de chimiothérapie avec toutes les images qui sont associées à ces deux stratégies. Par contre, l'iode radioactif a une place tout à fait importante. Et ensuite, c'est un suivi très régulier et le plus souvent de très bons pronostics.
Et donc là, suivi toujours par un endocrinologue ou on va aller vers l'oncologie?
Alors, le plus souvent, ce sont des structures assez spécialisées en endocrino-oncologie, comme il y en a dans certains hôpitaux, qui sont plus à même de suivre ce type de patient sur du long terme. Et l'endocrinologue a un rôle très important puisque c'est lui qui va assurer quand même le suivi sur du long terme, sur l'équilibre hormonal sous traitement.
Puisqu'on va rester là encore.
Absolument.
En traitement à vie.
À vie, là, du coup.
Merci beaucoup. Hein. Merci pour toutes ces explications très claires, professeur Philippe Touraine. Je rappelle que vous êtes chef du service d'endocrinologie et médecine de la reproduction à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Priorité santé sur RFI.
Retour sur la situation des patients survivants de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la flambée qui avait fait plus de 10 000 morts au total en 2014-2016. Pour en parler avec nous, nous sommes en ligne avec Éric Delaporte. Bonjour Éric Delaporte.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de cette étude, hein, directeur de l'unité VIH maladie associée à l'Institut de recherche pour le développement, l'INSERM, l'Université de Montpellier. Forcément, étude très intéressante alors que l'on vit en ce moment une flambée d'Ebola dans l'est de la RDC avec depuis le mois d'août dernier près de 500 victimes sur place. Alors forcément, les enseignements de cette flambée en Afrique de l'Ouest, on pourra en tirer justement des conséquences pour les autres épidémies en cours ou à venir. Vous vous intéressez à l'état de santé de celles et de ceux qui ont survécu à l'épidémie guinéenne, c'est bien ça? Sur combien de personnes a porté cette étude?
Alors, nous suivons les survivants d'épidémies en Guinée, une partie, 800 sur les 1170, avec Abdoulaye Touré et Sakousso. Et la première étude était l'évaluation des séquelles après être sorti d'un centre de traitement Ebola. Là, l'étude d'actualité concerne les contacts des survivants, c'est-à-dire des gens qui vivaient dans leur maisonnée, qui n'avaient pas fait de maladie. Il était important de savoir si oui ou non il y avait eu des cas de contamination. Or, notre étude montre que environ 4% des personnes qui vivaient au contact de cas effectifs ont séroconverti, ça veut dire qu'ils ont eu l'infection sans avoir de symptômes ou alors des symptômes très faibles. Et c'est une nouvelle donnée également, parce que quand on dit Ebola, on voit tout de suite la mort, et en fait, on peut très bien faire des formes très très peu symptomatiques, et alors qui vont passer inaperçus. Et donc c'est un problème à la lumière des épidémies, pour le contrôle des épidémies, parce que ces formes inaperçues, où les gens vont plutôt bien et ne sont pas dépistés, et potentiellement, point d'interrogation, il pourrait intervenir dans la chaîne de transmission de l'infection, et donc c'est une complexité supplémentaire pour contrôler une infection.
Vous inquiétez, par exemple, du fait qu'il puisse être, si on prend ce vocabulaire, porteur sain, mais contaminant?
Oui, alors l'adoption est celle-là, sachant que le portage sain, ça correspond à la période dans laquelle on est contaminant, infectieux, est très courte, hein, c'est une quinzaine de jours. Donc c'est pas comme le VIH, on va porter le virus toute sa vie, si on n'est pas traité. Là, c'est seulement cette fenêtre de 15 jours pendant lequel on a du virus dans le sang et où on peut contaminer quelqu'un.
Vous parliez tout à l'heure de votre étude, Éric Delaporte, qui portait également sur les séquelles de la maladie. De quelles séquelles s'agit-il?
Alors, il y avait deux types de séquelles. Il y a la première type de séquelles qui sont d'ordre psychologique. C'est un syndrome de post-stress, hein, et on le comprend. Des gens qui sont rentrés au CTA avec cette notion, je vais à la mort. Et donc, il y a les complexités d'un choc à la fois de dépression, de douleur et vraiment de stigmatisation. Donc, un ensemble de troubles psychologiques. Et puis, il y a également des complications liées au virus lui-même. Et ça, c'est également une découverte de cette épidémie, où on voit qu'on peut avoir des séquelles au niveau des articulations, des douleurs articulaires chroniques, des myalgies, des douleurs au niveau des muscles, et puis des atteintes au niveau de l'audition, et puis également au niveau de l'œil, avec des pertes de l'acuité visuelle, et même des cas de cécité liés à des cataractes inflammatoires. Alors, heureusement, on peut les opérer maintenant. Mais vous voyez, il y avait un ensemble de symptômes, et tout, dans notre première étude qui... de 3 ans, on avait montré que 3 survivants sur 4 présentaient des séquelles. Et donc là, avec le temps, on voit que ça diminue, mais malheureusement, il y a encore des séquelles à 4-5 ans après la phase aiguë.
Vous parliez de l'impact psychologique. Est-ce que vous diriez, Éric Delaporte, que la stigmatisation, on parle là encore de survivants, hein, le terme est très fort, la stigmatisation de ces survivants de l'épidémie s'est atténuée avec le temps?
La réponse est clairement oui. Oui, et heureusement, parce que d'abord on en guérit, et ça c'est la grande différence avec le VIH, là on guérit, donc la personne n'est plus contaminante, c'est plus les séquelles du choc psychologique, et alors certains, on voit dans le suivi des survivants, certains sont passés totalement à autre chose. Ils ont repris une vie normale. D'autres sont encore dans cette mémoire, plus que dans cette stigmatisation. Donc l'effet de la stigmatisation avec le temps, heureusement, s'est atténué de façon énorme.
En tout cas, votre étude, Éric Delaporte, montre que c'est important de suivre ces cas sur le long cours.
Et tout à fait, tout à fait. Et c'est une découverte également. On l'avait vu également lors de l'histoire de séquelles, puisqu'on s'est aperçu que, et c'est une autre donnée très importante, c'est qu'on peut être porteur du virus jusqu'à plus de 500 jours après la phase aiguë. Et donc là aussi, il y avait des notions très importantes. Quelqu'un qui guérissait du virus Ebola, et bien il était porteur, comme vous dites, porteur sain, mais cette fois-ci au niveau du sperme, et pouvait être à l'origine de 4 contaminations. Et en suivant ces survivants très longtemps, aujourd'hui, on est sûr de dire que après 550 jours, on est sûr, on n'a jamais retrouvé quelqu'un avec du virus dans le sperme. D'où la réponse à votre question. Oui, c'est fondamental de pouvoir prendre en charge et suivre sur le long terme.
Merci beaucoup, Éric Delaporte. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cette étude sur les survivants de l'épidémie d'Ebola en Guinée, directeur de l'unité VIH-SIDA, maladie associée à l'IRD. L'IRD qui fête ses 75 ans. Et on va en reparler vendredi dans Priorité Santé. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui fabrique chaque jour votre émission et la réalise. C'est Toussama Kéofeli, la scène Didier Bleu. Demain, nous allons parler de la voix des femmes, la voix au féminin. Vos questions, vos témoignages au 33 84 22 75 75 et sur la page Facebook de Priorité Santé. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les heureux retraités, assurez dès maintenant vos vieux jours avec l'assurance retraite. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.